Le silence des petits papiers, chapitre 26. Depuis plusieurs semaines, Amédée n'avait pas le moral. Le sommeil s'en était allé, cédant la place aux longues nuits d'insomnie. Les gravats de la grange effondrée avaient été évacués. Il subsistait une surface ressemblant à un quartier après un bombardement. Cette vue cauchemardesque le minait. Il revoyait le bon temps, celui où il nourrissait les veaux dans l'étable, celui où il stockait le fourrage à l'étage. Il se repassait sans cesse le film des jours heureux. Il n'admettait pas la version officielle. Le court-circuit sur la machine à alimenter le jeune bétail n'avait pas sa faveur. Cet appareil était en parfait état. Un système de sécurité efficace permettait justement d'éviter un accident de ce type. Le disjoncteur à faible ampérage aurait dû couper l'alimentation électrique. Ce point le tarabustait depuis le début. Il n'avait pas insisté face à la décision des autorités. Ça lui permit d'éviter le balai des experts avec son lot de tracasseries. Un mois plus tard, le maire vint lui rendre une visite de courtoisie. Il voulait s'assurer que son ami Amédée se remettait de cet avatar. Il ne cacha pas qu'il avait lui aussi des doutes sur l'origine du départ de feu. Il optait pour une main criminelle. Il insista en lui disant « c'est entre nous ». L'éleveur ne se satisfaisait pas de ce genre de conclusion. Il supposait qu'à l'instar du premier magistrat, d'autres échafaudaient les hypothèses les plus rocambolesques. Heureusement qu'il était parti avec les pompiers, toute autre escapade l'aurait désigné comme le commanditaire de l'incendie. Jour après jour, une machine infernale se mit en branle. Chaque visiteur usait de sous-entendus. Le brave Amédée encaissait sans répliquer. Chacun y allant de sa propre anecdote. Les « il paraît que »,« j'ai entendu dire »,« on m'a rapporté que », etc. y allèrent bon train. Il n'en pouvait plus, ne voulait plus voir personne. La cerise sur le gâteau fut la visite de l'assureur. Ce dernier lui rappela que son contrat avait été revu à la hausse le trimestre précédant le sinistre. Il rajouta qu'il s'agissait d'une coïncidence favorable. Ceci dit, avec un sourire qui en disait long sur le fond de sa pensée. Dans ses nuits blanches, il revoyait chaque détail. Il réfléchissait à celui ou celle qui aurait pu provoquer ce désastre. Il passa en revue toutes ses relations amicales ou de travail. Il écarta immédiatement Tonin. Le vieil ouvrier agricole n'aurait jamais eu le vice de craquer une allumette au-dessus des veaux en batterie. Il était simple d'esprit, mais trop gentil et serviable pour avoir eu cette initiative. Il pensa aussi à une vengeance de son ex-femme. Improbable. Elle avait tourné la page. Partie depuis une éternité, elle n'était jamais revenue dans le quartier. Il n'avait pas hésité à lui donner une somme importante en échange de sa tranquillité. Elle ne souhaitait pas le divorce. Lui s'en fichait, chacun vivant sa vie sans ennuyer l'autre. Il la raya de sa liste de suspects. Le nom de Joseph Duraz lui vint à l'esprit. L'homme entretenait des relations orageuses avec son voisinage. Amédée supportait le caractère irascible de son voisin. Ce dernier lui ayant promis à maintes reprises un coup de fusil s'il continuait à cultiver du maïs sur la parcelle derrière sa ferme. Il n'était jamais passé à l'acte, l'autre ayant compris qu'Amédée resterait maître chez lui. Il lui parut impossible que cet ivrogne soit venu jusqu'à la ferme à une heure où son imprégnation devait être à son maximum. Il devait cuver dans son lit ce jour-là. Il demanda à Tonin s'il l'avait aperçu ce soir-là. Sa réponse fut sans ambiguïté. Il ne se souvenait pas d'avoir croisé Joseph Duraz. Au petit matin, il n'avait pas avancé davantage. Il avait songé aussi au maquignon propriétaire des veaux. Il ne voyait pas l'intérêt qu'aurait eu ce négociant à faire cramer son bien en pension chez un éleveur. Ça ne tenait pas la route. Les nuits s'écoulèrent pendant qu'Amédée se morfondait à échafauder toutes les hypothèses possibles et imaginables. Il se levait plus fatigué que la veille, avec une migraine qui ne le lâchait plus de la journée. Il n'abandonnait pas la ferme, mais un ressort venait de se casser. Il assumait les tâches sans entrain, seulement par automatisme. La force de l'habitude prenait le pas sur le plaisir. Jean Portel était dans le collimateur, car depuis l'incident de la chèvre, l'inimitié entre les deux hommes était avérée. Amédée n'avait pas évalué à leur juste mesure l'étendue des dégâts. Le détenteur des grands crus vit la passion de sa vie s'écrouler en quelques minutes. Deux mondes les séparaient. Il n'était pas envisageable que ce citoyen, respectueux de la loi, se fourvoie dans une affaire de ce genre. Lorsque le visage d'Arsène s'afficha dans son cerveau, il l'évacua aussi rapidement qu'il était apparu. Il s'inquiéta de telles pensées. Le vieil Arsène était un ami de son père. Jamais, jamais, au grand jamais, il ne pouvait accepter un tel raisonnement. Il se demanda si la folie n'était pas en train de l'atteindre. Il soupçonnait ses amis. Il se décida à consulter un médecin. L'homme de l'art lui prescrit du repos loin de sa ferme. Il ne pouvait se résoudre à une telle éventualité. Il accepta un traitement. Le Prozac fit son apparition au petit déjeuner, entre deux tartines. Le médicament lui apporta un piètre confort. Il pensait moins aux causes. Il errait comme une âme en peine. Il absorba ses cachets pendant une dizaine de jours. Le 11e, il mit la boîte dans sa poche, se dirigea vers un feu de branchage allumé par Tonin, jeta le tout au milieu et attendit de voir se consumer la drogue qui l'assommait au lieu de le guérir. En descendant vers le marais, il songea soudainement à l'Alfa Romeo qui s'était échoué quelques mois plus tôt. Il se demanda s'il n'y avait pas un rapport avec l'incendie. Là aussi, seul son esprit fécond pouvait l'amener à de telles suppositions. Le seul lien qu'il trouvait entre lui et cette voiture se situait au niveau de l'exportation des veaux vers l'Italie. Ça ne collait pas, car il n'était qu'un éleveur. Il fallait bien connaître le dossier pour savoir que les animaux appartenaient à tel ou tel maquignon. Il ne se sentait pas de taille à décortiquer chaque hypothèse, à examiner l'emploi du temps de chaque suspect, à chercher la faille dans des alibis irréfutables. C'est le maire qui avait raison. Il valait mieux en rester là. Il toucherait prochainement une indemnité qui, selon l'assureur, mettrait des couleurs à la grisaille des jours. C'est vrai qu'une somme conséquente lui serait allouée, mais rien ne remplacerait le préjudice moral. Aucune assurance ne pourra remplacer cela. Il eut la visite de son ami Joël Massard. Ce dernier lui révéla qu'il enquêtait dans le cadre d'un article réclamé par son directeur. Ses recherches l'amenaient vers des fermiers victimes d'incendies de grange. Il fit part à Amédée des convergences qu'il avait remarquées. Il lui avoua qu'il correspondait parfaitement aux critères observés précédemment. Les deux hommes furent convaincus qu'il se tramait derrière ça des luttes de clans maquillées en court-circuit ou fermentation de fourrage. Ils eurent vite conscience qu'il était dangereux de s'exprimer davantage sans apporter de preuves. Le journaliste lui demanda la plus grande discrétion. Il tenait probablement de la dynamite au bout de son stylo.